Métaphysique Saint-Jeudard, 1984-1985, le 12 juin 1985.
Nous avions donc vu comment le langage, avec le point de vue du verbe, lié au nom, pose un nouveau problème comme signe. Est-ce que la réalité qui est l'homme que nous regardons n'implique-t-elle pas autre chose que l'aspect de la détermination, au-delà des 10 prédicaments qui donnent les diverses déterminations de l'homme, n'y a-t-il pas un autre problème qui est le problème de l'action? Problème de l'action dans toute sa complexité. L'homme est capable de se dépasser dans son activité. Et l'action exprime cela. Alors nous devons maintenant essayer de voir comment se fait cette découverte. Ou comment, si vous voulez, nous pouvons aborder le problème de l'action. Alors, il y avait quelque chose de très intéressant à faire, je vais simplement le soulever, c'est que nous pouvons saisir que le problème du devenir, ce qui est mu, est déjà un problème qui montre qu'il y a dans la réalité qui devient et qui est quelque chose qui ne peut pas se ramener uniquement à la détermination. Autrement dit, reprendre le problème des prédicaments, de l'action et de la passion. Ce qui est nu implique une détermination et implique une indétermination. Et parmi les prédicaments, dans les 10 prédicaments, vous avez action et passion. Alors, ceci veut expliquer le fonctionnement. Alors, il serait intéressant ici de relever la grande critique de Bergson sur le fluxus et sur la réduction du fluxus à l'action et à la passion. Bergson fait une critique assez sévère à la perspective d'Aristote et à la perspective scolastique, de ramener, de dire que le fluxus, le mouvement, ce qui est mu, le pantarei d'Héraclite, tout court, ne peut pas se ramener à l'action et à la détermination, puisque le ramener à l'action et à la détermination, c'est le ramener à quelque chose, comme dit Bergson, du step. Attention, fluxus, c'est le dynamisme, et le statique, c'est l'action de la passion. Ce n'est pas tout à fait juste. Hein. C'est intéressant de relever cette critique, parce qu'en réalité, action et passion, c'est une analyse du fluxus. au point de vue de ses déterminations. Mais c'est tout à fait juste de dire que le fluxus est quelque chose d'irréductible à l'action de l'action. Et c'est peut-être ça qui pose en premier lieu le problème, justement, d'un autre aspect dans la réalité existence qui est mue. Alors, je crois que c'est la première constatation qu'on doit faire. C'est que le fluxus, le devenir, dans toutes ses déterminations, le devenir physique, hein, au point de vue de ses déterminations, se ramène bien à action et passion. Mais que ceci, c'est réduire le fluxus à quelque chose de quiditatif. Or, le fluxus comme tel dit autre chose que la détermination. C'est du reste pour cela qu'Aristote dit que le mouvement, c'est l'entelecheia de ce qui est en puissance en tant qu'il est en puissance. Donc, au fond, il aborde, au point de vue philosophie de la nature, il aborde le fluxus autrement que par l'action et la passion. Il y a donc quelque chose qui nous oblige de comprendre que dans le devenir physique, il y a un nouvel aspect de ce qui est irréductible à la détermination. Irréductible à l'aspect quiditatif. C'est que la réalité se donne à moi à travers ce mouvement, à travers un acte imparfait. Puisque si l'acte était parfait, il n'y aurait plus de mouvement. Il y aurait un repos. Et parce que l'acte est essentiellement imparfait dans le fluxus, il continue toujours. Et tout le monde physique est un monde constamment en mouvement. Seul le vivant connaît un repos. Alors, c'est peut-être cela qui doit nous aider à saisir ce passage du fluxus, l'expérience que j'ai du monde physique, dans mon corps, à l'opération vitale. L'opération vitale implique la durée. L'opération vitale qui implique la durée implique quelque chose d'une certaine immanence. L'acte n'est pas tout le temps en devenir. C'est-à-dire, il m'échappe toujours. Je ne peux jamais l'arrêter. Tandis que dans le vivant, il y a une immanence qui permet le retour. Et c'est d'une certaine manière le repos qui fait comprendre le mouvement. Quand le vivant se repose, il reste un vivant. Il se repose. Son activité est ordonnée à certains repos. Alors, je découvre donc, par le point de vue du repos, quelque chose qui est au-delà du fluxus, du pur devenir. Et ce repos, il apparaît chez le vivant. Le monde physique, comme tel, ne se repose jamais. Il n'y a pas de repos dans le fluxus, dans le monde physique. Et parce qu'il y a un repos chez le vivant, il y a un rythme. Le rythme apparaît chez le vivant. Est-ce qu'il y a un rythme dans le monde purement physique? C'est une très grosse, très grave question, ça. Je crois que pour qu'il y ait le rythme, il faut qu'il y ait mouvement et repos. S'il n'y a pas de repos dans le monde physique, il n'y a pas de rythme. Et le rythme apparaît chez le vivant. Vous voyez tout de suite une question toute nouvelle qui n'est plus du tout la question de la détermination, qui est le monde physique dans lequel je me trouve et dont je suis dépendant. Par mon corps, je fais partie de ce monde physique. Ce monde physique apparaît comme un monde de mouvement. Si donc je veux savoir ce que c'est que l'homme, je suis obligé d'essayer de comprendre par rapport à l'être, et dans la lumière de l'être, qu'est-ce que c'est que ce devenir? Qu'est-ce que c'est que ce fluxus permanent? Cette source d'inquiétude, d'instabilité, de non-repos, de changement permanent. Quelque chose d'évanescent. Dès que je veux saisir une réalité, elle existe dans l'instant présent, mais elle, immédiatement après, elle n'existe plus. Le monde physique, c'est un monde de l'instantané. Puisque le passé n'existe plus et le futur n'existe pas encore. Et c'est le propre d'un fluxus, c'est d'exister qu'une façon instantanée. Et donc d'exister d'une façon extraordinairement précaire. Juste l'opposé de la substance. C'est vrai. C'est en ce sens-là que c'est tellement difficile de savoir s'il y a une substance de l'eau dans un torrent. Le pantareil, ça coule tout le temps. Alors vous ne pouvez pas fixer un moment où le torrent soit torrent, parce que dès qu'il ne coule plus, il n'est plus torrent. Il n'est torrent que dans la mesure où il coule. Et quelle est la substance de l'eau qui est dans ce pur devenir? Quelle est la substance de notre monde physique qui, même si il n'est pas aussi fluent que l'eau et que l'eau du torrent, se modifie tout le temps. Le corps humain se modifie tout le temps, se transforme tout le temps. Alors, qu'est-ce que ça représente au point de vue de l'être? Oui, la question qui se pose à partir du mouvement et du mouvement physique. Puis la question du vivant. Le vivant a des alternances. Il y a une nuit et il y a le jour. Est-ce que pour le monde physique, la nuit et le jour signifient quelque chose? Ou est-ce que la nuit et le jour ne signifient quelque chose que pour le vivant, puisqu'il y a un repos? Est-ce que le monde physique se repose la nuit? Ou est-ce que le monde, la nuit, c'est proprement pour les vivants? Phénomène de la lumière, phénomène des ténèbres. La division des ténèbres et de la lumière. Est-ce que c'est propre au vivant? Il faut se poser ces questions. Ça fait partie de cette nouvelle interrogation que j'ai par rapport à l'homme, par rapport au monde physique. Je vois qu'il y a un certain repos chez le vivant. Un repos qui peut prendre du reste un rythme très différent, puisque les marmottes, qui sont des petits animaux extrêmement gentils, et de temps en temps il y a des marmottes chez les hommes, les marmottes ont besoin de dormir d'une façon très étonnante. Toute une saison. Tout l'hiver. On est marmottes. C'est curieux hein, de voir que le rythme du repos et d'être éveillé est différent chez les divers animaux. Parce qu'il y a le jour et la nuit. Puis il y a les saisons. Tout ça, c'est le propre du vivant. Et tout ça donne un rythme particulier au vivant qui se développe différemment. Il y a un hiver. L'hiver étant le moment du repos. Et l'été, sauf au moment de la canicule, c'est le moment au contraire de l'épanouissement de l'être. Et si je regarde l'homme, je m'aperçois qu'il y a en lui encore un nouveau mouvement. Donc, le fluxus pur, le point de vue de l'opération vitale, avec le repos, avec son rythme particulier, puis troisième moment, les opérations spirituelles. compagnie de la pensée, puisque au niveau des opérations vitales, il y a la connaissance, il y a la pensée et l'amour. Si je regarde l'homme, je m'aperçois qu'il y a aussi chez lui encore un rythme nouveau qui n'est plus le rythme de la vie biologique. Il y a un rythme particulier qui est le point de vue de l'esprit. Et tout cela ne peut pas s'expliquer uniquement par le point de vue des déterminations et le point de vue de la substance. Il y a donc nécessairement une nouvelle interrogation qui se pose. Du point de vue de l'être, il y a une nouvelle interrogation qui se pose. Qu'est-ce que c'est, du point de vue de l'être, que l'opération spirituelle de la pensée et de l'amour? Qu'est-ce que c'est, du point de vue de l'être, que le point de vue du repos de la vie dans la vie biologique? Qu'est-ce que c'est, du point de vue de l'être, le pur devenir? Je crois que c'est les trois grandes interrogations qui se posent immédiatement du point de vue de l'être. Et qui ne peuvent pas s'expliquer par le problème de la substance et de la qualité. Ils sont autre chose. Et il y a quelque chose de nouveau qui apparaît irréductible aux déterminations, irréductible au domaine de la forme. Ce qui montre tout de suite que le platonisme, qui ne regarde que le point de vue de la forme, et qui identifie et qui ramène l'être à la forme, ne saisit pas la réalité dans toute sa complexité. Si je suis platonicien, le point de vue du mouvement, le point de vue de l'opération vitale, le point de vue des opérations spirituelles, se ramène à la forme. Il n'y a rien d'autre. Si je suis plus attentif à la réalité et que je quitte un aspect de la dialectique de la forme, je suis obligé de reconnaître qu'il y a un nouveau problème irréductible au domaine de la substance et de la qualité, de la quantité ou du prédicament. Les prédicaments qui touchent le plus, c'est l'action et la passion, mais eux-mêmes n'expliquent pas le fluxus. Eux-mêmes n'expliquent pas l'opération vitale avec le repos. Et eux-mêmes n'expliquent pas l'opération spirituelle, pensée et amour. Je crois que ça, c'est assez facile à comprendre. Et tout ça font partie de l'homme. L'homme implique les trois. Le fluxus, phénomène d'érosion. Nos cheveux qui tombent. D'érosion. C'est évidemment un phénomène d'érosion. Alors, notre corps, on maigrit. Il y a des chutes. Phénomène, donc, on fait partie de cet univers. Phénomène des opérations vitales, nous refaisons nos forces. Nous nous reposons. Nous sommes capables de faire la planche, de descendre le fleuve, comme le monde physique, en abdiquant d'être autonome et en étant uniquement à l'unisson des autres, nous adapter parfaitement. Et puis, il y a en nous un phénomène spirituel, opération spirituelle. Ceci pose une question, qu'est-ce que c'est que ce fluxus? Qu'est-ce que c'est que cette opération vitale? Qu'est-ce que c'est que cette opération spirituelle? Du point de vue de l'être, pas du point de vue devenir physique, pas du point de vue opération vitale ou opération spirituelle, mais du point de vue de l'être. Comment le mouvement, l'opération vitale, les opérations spirituelles, me pose un nouveau problème. Alors, première solution, vous savez, ça a été donné, c'est pour ça que je l'ai dit, le père de finance. Le père père de finance, qui est le dernier qui a écrit une métaphysique, un manuel de métaphysique. Il le dit au début que c'est son cours. Et le père de finance dit que nous sommes en présence avec l'opération vitale, l'opération spirituelle, devant un surêtre. Comme il y a un surhomme, il y a un surêtre. Est-ce que c'est satisfaisant au point de vue philosophique? Ça a été dit, donc il faut nécessairement le regarder. Je n'ai pas le droit de ne pas le regarder. Est-ce que ça explique quelque chose? Dire surêtre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque chose qui n'est pas de l'être, puisque c'est au-dessus de l'être. Ce n'est plus métaphysique, c'est méta-être. Alors si c'est méta-être, ça veut dire que nous sommes là en face d'une nouvelle dimension de l'être. Alors cette nouvelle dimension de l'être, qu'est-ce qu'elle peut être? Du divin? Du spirituel? Pour lui, c'est du surêtre. Pourquoi c'est du surêtre? Parce qu'il a identifié l'être et la substance. Il a identifié l'être et la forme. Vous voyez, le vieux platonisme qui est toujours sous-jacent. Identifier l'être et la forme. Identifier l'être et la substance. C'est nécessairement aboutir à dire que le mouvement, les opérations vitales sont au-delà de l'être. Puisque c'est au-delà de la forme, c'est donc au-delà de l'être. Mais si c'est au-delà de l'être, je ne peux plus rien dire. Puisque j'exprime tout par le point de vue de l'être. Primo cadit in intellectu, ens. Et c'est toujours en référence avec l'être que j'exprime la chose. Donc en disant que c'est sur-être, je veux dire que c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre, qui m'échappe. Intellectuellement, ça m'échappe. Donc je ramène tout à la forme. Et en définitive, je veux tout définir. Je crois qu'il y a ça derrière. On a un besoin de tout définir. Eh bien, le mouvement ne se définit pas. L'opération vitale ne se définit pas. L'opération spirituelle ne peut pas se définir. Alors c'est pour ça que je dis surêtre. Je ne peux pas m'arrêter à cela. Je dois essayer de comprendre s'il n'y a pas une autre façon de regarder le mouvement, les opérations vitales, les opérations spirituelles. C'est là où le problème se pose. Est-ce que, de fait, je puis, au-delà de l'interrogation du TST, ou plus exactement, à l'intérieur de l'interrogation du TST, n'y a-t-il pas quelque chose de nouveau à découvrir? Et découvrir que dans l'être, dans la réalité qui est, c'est-à-dire l'homme, il y a quelque chose d'au-delà de la forme qui est, et qui même est d'une façon plus actuelle que la forme. La forme n'est-elle pas ordonnée à quelque chose de plus? Ici, le vieil Aristote dit bien, et saint Thomas l'affirme à sa suite, que toute forme implique une inclination vers quelque chose qui soit la forme. Alors, est-ce que ce n'est pas ce problème-là devant lequel nous nous trouvons? Le dépassement de la forme, non pas le dépassement de l'être, mais le dépassement de la forme pour comprendre l'ordre de l'être humain vers sa fin. Ne sommes-nous pas ici en présence d'une nouvelle interrogation? à l'intérieur du TST, qu'est-ce que c'est? En vue de quoi est l'être? En vue de quoi est la forme? En vue de quoi l'homme existe-t-il? Oui. À l'intérieur du TST, c'est encore l'interrogation qu'est-ce que c'est que l'être? Et dans qu'est-ce que c'est que l'être, j'ai répondu par le point de vue de la détermination et de la forme. Et à l'interrogation de qu'est-ce que c'est que l'être, je veux savoir ce vers quoi tend l'être. Ce vers quoi l'être est. Autrement dit, le problème de la fin va se poser non plus au niveau de tel ou tel individu, non pas au niveau de la nature, mais au niveau de l'être. Donc, un problème radical. Vers quoi l'être tend? Je crois ça très important à essayer de saisir le pourquoi de cette nouvelle interrogation. Autrement, vous voyez, ça tombe d'en haut. L'interrogation, c'est moi qui la pose. Il faut voir pourquoi je pose cette interrogation. Eh bien, je pose cette interrogation parce que je constate qu'il y a dans la réalité qui est mue quelque chose d'irréductible à la détermination. Pour qu'il y ait interrogation, il faut qu'il y ait admiration. Nous savons. S'il n'y a pas admiration, il n'y a pas d'interrogation. Il faut donc pouvoir saisir ce dépassement par rapport à toutes les formes, par rapport à toutes les déterminations, pour que nous soyons en état d'admiration. Mais qu'est-ce que c'est que ce fluxus? Qu'est-ce que c'est que cette opération vitale? Qu'est-ce que c'est que ces opérations? Du point de vue de l'être, qu'est-ce que ce que représente ce quelque chose d'irréductible à la forme? Que représente ce dépassement de la forme? Comment la forme est-elle essentiellement ordonnée vers quelque chose d'autre? Pourquoi je ne puis pas m'arrêter à la forme? Et comment, du fait même que j'identifie l'être et la forme, je parlerai d'un sur-être? Et si je comprends que l'être est au-delà de la forme, alors je saisis une nouvelle dimension de l'être, ce dépassement de la forme. Qu'est-ce que c'est que ce dépassement de la forme? Qu'est-ce que c'est que cet ordre radical de l'être, de ce qui est, vers quelque chose d'autre, vers quelque chose qui me dépasse au niveau des déterminations, au niveau des prédicaments? Voilà l'interrogation. Et ceci, c'est capital. Pas d'induction sans interrogation. Pas d'avance, pas de... L'intelligence n'avance pas si elle ne voit pas l'interrogation. Or, toute interrogation devient une véritable interrogation que quand je suis en face de quelque chose qui m'échappe. Alors, le quelque chose qui m'échappe, c'est justement ce dépassement du devenir par rapport à la forme. Cette irréductibilité. Je suis devant quelque chose qui ne peut plus se ramener à des déterminations. Et ce quelque chose qui ne peut plus se ramener à des déterminations me pose une question. Alors, qu'est-ce que c'est? TST. Et ce TST se précise, puisque je sais qu'est-ce que c'est que l'être du côté de la détermination. Il y a un TST qui est plus radical, qui est plus profond. C'est le TST, qu'est-ce que c'est que l'être du point de vue de sa finalité. Qu'est-ce qui finalise? Qu'est-ce qui achève ce qui est? Qu'est-ce qui permet à ce qui est d'être parfaitement lui-même? Ça ne peut pas être la forme, puisqu'il y a le mouvement. Ça ne peut pas être la forme, puisqu'il y a l'opération vitale. Puisqu'il y a l'opération spirituelle. Et que dans l'homme, ces trois opérations apparaissent comme un dépassement de toute détermination. Donc, ça ne peut pas se ramener à la détermination. Il faut donc découvrir qu'est-ce qui permet de préciser philosophiquement ces interrogations. Qu'est-ce qui me permet de découvrir ce que représente pour l'être humain ce dépassement. Cette orientation, cet achèvement, cet état de plénitude, de perfection, cet état de repos. Et tout ça me semble quelque chose de très important à saisir. Donc, premièrement, l'interrogation, la nouvelle interrogation. Comment elle surgit? Et comment on peut la reprendre chacun d'entre nous. L'interrogation surgit toujours d'une série d'expériences. C'est pour ça que je suis revenu devant ces expériences, ces trois grandes expériences. Et je prends exprès ces trois expériences qui sont, d'une certaine manière, l'expérience de quelque chose qui est irréductible à la forme. J'interroge donc. Et dès que j'interroge, je reviens à la réalité que j'ai constaté. Et en interrogeant, je m'aperçois que dans la réalité que j'ai expérimentée, je peux tout de suite exprimer, c'est peut-être le second moment, le premier moment, l'interrogation, deuxième moment, sous le fait de l'interrogation, je distingue dans les diverses expériences que j'ai fait, deux états. Dans tout être qui est mu, dans tout vivant qui implique des opérations vitales, dans tout homme qui implique une opération spirituelle, je vois que le devenir cache deux états, un état d'imperfection et un état de perfection. L'état d'imperfection, l'état de perfection. S'il n'y avait pas ces deux états, il n'y aurait pas de vie. Il n'y aurait pas d'opération vitale, il n'y aurait pas d'opération spirituelle. La condition sine qua non, hein, je ne dis pas que c'est l'explication, mais la condition sine qua non pour que, de fait, le fluxus existe, l'opération vitale existe et les opérations spirituelles existent, c'est qu'il y a deux états. C'est que l'être m'apparaît, l'être physique m'apparaît comme ayant un état d'imperfection et un état plus parfait, qui ne supprime pas totalement l'imperfection puisque le devenir continue. Et que dans tout devenir, je peux distinguer deux moments. Un moment d'imperfection, l'être en puissance. Un état de perfection, mais en acte. Mais tel qu'il y a. Et ça, je peux le faire à l'égard de toutes les expériences que je fais du mouvement. Tout mouvement, dès que je l'interroge, et c'est normal, dès que je l'interroge pour savoir qu'est-ce qui, de fait, qu'est-ce que c'est que l'être parfait. Qu'est-ce que c'est que l'être finalisé? Qu'est-ce que c'est que l'être dans son achèvement? Je vois tout de suite que l'expérience que j'ai, les différentes expériences que j'ai du mouvement, impliquent ces deux états. Jusque-là, ça va très bien, parce que c'est dans le descriptif. Et ces deux états sont d'autant plus nets chez le vivant. Chez le vivant, ces opérations vitales impliquent une différence encore plus grande. Dans le devenir physique, les deux états sont liés, puisque le devenir physique continue tout le temps. Donc les deux états sont liés, ce sont dans Le devenir physique implique ces deux états dans la même réalité, tandis que chez le vivant, il y a un écart, ce qui est un repos. Je peux voir et suspendre, fermer mes yeux. Et même la nature a voulu qu'il y ait un volet qu'on ferme les paupières.
C'est extraordinaire.
C'est une bienveillance, pas mieux s'il n'y avait pas de paupières. Vous voyez comment ça se passerait. Grâce au volet, au moins, il peut se faire un petit moment de repos. De repos ça. Il n'y a pas. Restez toujours les paupières ouvertes. Oh, vous arriveriez à dormir. Hein. Il y a des gens qui dorment les yeux ouverts. Hein. C'est extraordinaire. Ils ne voient rien. Mais c'est plus agréable de dormir les yeux fermés. Ça va plus vite. Et c'est curieux parce que au niveau physique, il n'y a pas de volet. Hein. Toujours l'être physique est tout le temps en devenir. C'est avec la connaissance qu'il y a une différence entre les deux. Parce qu'au niveau végétatif, hein, vous pouvez dire, ah, j'ai faim. Vous avez terminé votre illusion. Vous avez commencé à avoir faim. Parce qu'il faut toujours mettre un aliment, n'est-ce pas, nouveau. Alors, vous pouvez le saisir. Mais vous saisissez beaucoup mieux chez je le vivant dans sa connaissance. Et vous saisissez une différence. Il y a une différence entre deux états. L'état de celui qui voit et celui qui ne voit pas. L'état de celui qui touche et celui qui ne touche pas. L'état de celui qui entend. Mais c'est avec la vision que c'est le plus parfait. Parce que normalement, avec la vision, avec le point de vue de Louis, vous êtes obligé de mettre des boules cuillesses. Hein, pour ramasser. Mais c'est artificiel, c'est pas tellement bon. Tandis que vous n'avez pas de boules cuillesses pour les yeux. Naturel. C'est curieux cette chose-là. Et c'est la vision qui est la connaissance la plus parfaite. Donc, je vois cette chose très curieuse, je constate cette chose très curieuse, que plus l'être est parfait, plus il y a une distance entre l'état d'imperfection et l'état de perfection. Il existe déjà dans le devenir, mais dans l'immanence. Tandis que là, il y a une diversité. Je vois et je peux voir. Et si je regarde les opérations spirituelles, alors la diversité est encore plus grande. Il y a une plus grande diversité entre celui qui peut contempler et qui contemple, qu'entre celui qui peut voir et qui voit. Ça explique beaucoup de choses. La distance entre l'état d'imperfection et l'état de perfection est plus grand chez un être spirituel que chez un être sensible. Celui qui peut travailler, fabriquer, modifier la matière, celui qui la fabrique, qui la transforme, il y a une différence plus grande qu'entre celui qui peut voir et qui voit. Les deux états de perfection et d'imperfection, donc, ont une distance de plus en plus grande. Ça, je peux le constater, hein, je décris. Et c'est même peut-être, voyez, grâce à l'opération vitale et à l'opération spirituelle où je suis entre deux états tout à fait différents et deux états différents successifs, que je peux déceler plus facilement dans le devenir physique l'état d'imperfection et d'imperfection. Je crois. Au point de vue connaissance. C'est la diversité qui existe dans le vivant spirituel entre un état de perfection et l'état d'imperfection qui me permet de le déceler dans le monde biologique et de le déceler dans le monde de la connaissance sensible, de le déceler dans le monde biologique. C'est évident. Pourquoi on éduque un enfant, on veut à tout prix l'éduquer dans un rythme de biberon qui fait qu'à certains moments, il doit actuer sa digestion et à d'autres moments, il doit la reposer. Et l'homme ayant un sens davantage au plan spirituel des états d'imperfection et des états d'imperfection, il ne mange pas tout le temps. L'animal brute. Et plus l'homme tombe dans l'imperfection, la perfection de l'homme c'est la vie religieuse, l'heure des repas est ponctuée, entre les repas on ne mange pas. Hein? C'est un signe de perfection, ça, de montrer une distance plus grande entre l'état d'imperfection et l'état de perfection. C'est très curieux de réfléchir là-dessus. C'est très important, hein? C'est très important pour ce que nous allons voir. C'est pour ça que j'insiste, parce que si on ne voit pas ça, je crois qu'on ne peut pas arriver à l'induction. Il y a quelque chose que je constate. Je constate donc ces opérations, j'interroge, et en interrogeant, je vois qu'en effet, il y a deux états tout à fait différents entre l'état de perfection et l'état d'imperfection. Alors, troisième moment, une fois que j'ai saisi cette diversité, je vais essayer de voir quelles sont les opérations types où je vois le mieux cette distance entre l'état de perfection et l'état d'imperfection. Je suis libre de choisir. Hein. Je suis au sommet de ma philosophie, ne bouge pas. J'ai déjà découvert la substance. J'ai déjà découvert la qualité, j'ai découvert tout ce que représente la philosophie du vivant, j'ai découvert la philosophie de la nature, j'ai découvert l'éthique, j'ai découvert le facere, tout ça est présent. Alors, je peux regarder à travers toute la philosophie, qui regarde toujours l'homme, est-ce que je ne suis pas devant des états d'imperfection et de perfection dans les différents aspects? Alors, j'interroge les différentes parties de ma philosophie pour mieux comprendre cette diversité et en même temps ce qu'il y a de tout à fait particulier, tout à fait nouveau. J'aurais pu le faire avant, mais j'aime mieux le faire ici, quand je regarde les états de perfection et de perfection. Alors, je vais regarder. Dans la philosophie du Fatshev, où est-ce que vous découvrez les deux états les plus distants? Celui qui peut travailler, qui peut édifier. Alors je prendrai l'architecte. L'architecte, c'est le sommet du facteur. Bien évident. Architectonique. Donc il est maxime étalé dans l'ordre du travail, l'architecte. Et donc celui qui peut édifier, construire, capacité. Qui dort, il peut édifier. Et puis, sur le chantier, il y a un problème qui se pose, on va vite le réveiller. Mais celui qui peut édifier, qui peut construire, capacité. Et puis, il construit. Il construit en acte. Par rapport au facere, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux. Je vois ces deux états. Et le facere implique une matière. Donc il y a la matière. Il y a l'œuvre. La matière transformée. La matière, un état d'imperfection. Et puis l'œuvre, l'état de perfection. Ceci, c'est dans la ligne du facere. Ça, nous pouvons très bien comprendre que, de fait, c'est vrai. Si je regarde le facere, ça fait partie de la philosophie, l'étude de la philosophie de l'art, hein, l'étude du facere. Bien, qu'est-ce qui domine dans toute l'étude du facere? C'est l'architecte. Parce que l'architecte peut regarder tous les autres arts, tous, et les met chacun à leur place, d'une certaine manière. Le facere regarde la matière, et quand il construit, il y a l'œuvre. Deuxièmement, l'agir. L'agir. On va essayer de regarder à travers toute la philosophie. Vous pouvez faire ça, c'est du reste très facile à faire. À travers toute la philosophie, est-ce que je ne vois pas deux états particuliers pour l'homme? Et ça, c'est irréductible. Ma philosophie de la substance n'explique rien du tout de tout ça. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu.